La philo-lophie, un voyage intérieur
et extérieur
d'Aristote à Zarathoustra. Marcher 5 minutes avec toi.
C'est comme Critias,
Cicéron,
Callimaque,
Cioran,
Cassiodore,
Campanella,
Condillac,
Condorcet,
Châtelet,
Camus,
Cassin,
Cantos,
Sperber, Califon,
Coluche,
Casimir, Auguste Comte.
Mais des fois je dis le prénom.
La Castafiore.
Ah oui, bien.
C'est comme connivence entre collectif et singularité.
Oh là là.
Comment nommer ce qui espère le plus en nous, ce qui est en capacité d'avoir la plus haute espérance, ce qui reconnaît en nous notre plus haute aspiration, ce qui est capable même intimement de donner une place et une valeur entière à ce qui compte, ce qui est le plus beau, le plus grand pour soi. Même provisoirement, le nommer. Comment le nommer? Peut-être aussi le formuler ainsi. Comment répondre à ce qui exige, pour exister, d'être instamment désigné?
Il en va ainsi de l'amour, et il est un provisoire qui peut durer, parce qu'à travers lui et par lui, dans cet amour, dans le désir absolu d'aimer, d'être aimé, reconnu, respecté et même peut-être sauvé, cet amour a eu besoin d'exister et d'être reconnu. La question n'est pas de savoir si cet amour existe, mais à quoi permet-il lui-même d'exister. Une façon absolue de considérer l'amour face à ses contradictions. Si on y regarde de plus près, cette façon remonte à loin dans le temps. Elle a même anticipé par sa reconnaissance, un peu comme on pose une pierre à un endroit pour y revenir plus tard, provisoirement nommé amour, longtemps à l'avance, pour répondre à son besoin d'exister, de prendre forme. L'amour humain, à la fois comme défi, aspiration, élévation, capacité ultime, s'est projeté à travers nous.
Le langage s'associe en nous pour faire advenir ce qui est en attente derrière lui. Comment ne serions-nous pas effarés d'être à ce point son instrument pour des buts qui, bien souvent, nous dépassent, ne coïncident pas avec notre position de petite créature vivante et mortelle. Le langage est cruel quand bien même il sert les plus belles et les plus hautes intentions. Ainsi ignorais-je que j'aurai un jour à aimer et à être aimé. Mais les mots sont venus pour m'y conduire.
Ainsi, le chemin des mots, les sentiers que prend le langage, se prennent-ils plus souvent au sérieux pour eux-mêmes qu'à travers nous, oublieux des créatures ouvrières que nous sommes? C'est pourquoi l'action humaine, quand elle intervient brusquement, non calculée, déconcertante, est aussi libératrice. Sans quoi le langage s'emballe, réduit à l'état d'instrument, il peut nous nier par sa suprématie. Qu'il nous indique le chemin, qu'il soit à promesse de réalisation, ne doit pas nous faire oublier qu'il faut souvent lui redonner sa place et la nôtre en même temps, dans la plus grande complexité possible. C'est une tâche qu'on attribue aussi à la philosophie que de s'en rendre compte. Mesurer les aléas de nos existences, depuis cette ambition qui ne néglige personne, c'est donner une toute autre tournure à notre découragement, à nos faiblesses, à notre propension à ne plus se sentir heureux. Quand les mots, trop présents par eux-mêmes, nous oublient.
La vie ne commence pas avec la naissance et ne finit pas avec la mort. La vie, c'est autre chose. C'est être pris dans le langage et répondre dans sa prison en nous formulant notre propre réponse particulière à son existence, même si en l'empruntant, nous revenons à la vie au risque de nous perdre en lui. Seulement, c'est un problème particulier à une situation collective. Une réponse collective est forcément erronée ou limitée. Car alors, c'est découvrir que nous sommes vivants, c'est-à-dire qu'il nous faut ajuster sans cesse notre rapport au langage pour que ce rapport soit fortifiant, passionnant, jamais banal ni purement usuel. Nous sommes vivants par la qualité de ce rapport sous toutes ses formes. C'est ce que la plupart des humains, au long des temps, en tout lieu de la Terre, se sont efforcés de comprendre et de mettre en œuvre, parfois de façon extrêmement poétique, colorée, inventive, même si la plupart du temps, cela a pris l'allure de rituels et de cérémonies religieuse.
Avons-nous donc oublié que la parole n'a pas d'autre embarcation que le corps, seulement paré de son sillage de sensations? À trop vouloir le cacher, le langage est en train de ne plus s'y reconnaître. Venant chaque jour donner de la tête dans les troupeaux de flotteurs dont il ne peut plus se passer. Nageurs aveugles, nous n'en avançons pas moins dans ces eaux incertaines pour découvrir notre allure avec notre parcours. C'est pourquoi, que nous le voulions ou non, de sa liberté dépend la nôtre. Non pas seulement notre liberté de dire, mais celle d'être et sans doute d'aimer. Écrit Annie Lebrun dans « Qui vive ?» paru chez Ramsay Jean-Jacques Pauvert en 1991.
D'où nous vient et d'où nous manque la joie et l'énergie pourtant si puissamment reliées aux œuvres de la civilisation alors que nous baignons en elle? Pourquoi, alors même que nous en percevons le feu, les flammes, la chaleur et la lumière, ce trésor immense, cet héritage, nous est-il en même temps visible et lointain, stimulant et comme fait pour que survienne la joie et rendu, dans le même temps, inaccessible, si peu présent et agissant? Ainsi, combien de fois, en classe, au long des jours, à l'école, chez soi, dans la rue, plus ou moins proche de ses œuvres, nous rendons compte que nous n'en obtenons pas toute la force et l'énergie qui pourrait en sortir.
Un poème de Rimbaud, quelques vers de René Char, des textes de Jacques Prévert, le souvenir d'un livre de Boris Vian, des musiques, quel qu'en soit le genre, le style, les images d'un film, ou encore le passage remémoré d'un ballet moderne ou ancien.
La joie que ces œuvres contiennent est comme encastrée, prise en charge, retenue dans l'édifice de la culture, qui en délègue la jouissance à quelques artistes médiateurs, en prescrit la diffusion savante au corps enseignant, ce corps bien fatigué, héroïque et abîmé, dans un cadre peu fait pour faire éclore ce gai savoir dont parlait Nietzsche, le retient dans des nasses d'analyses et de commentaires d'où peu, très peu de philosophes arrivent à extraire la substance incandescente.
Il en résulte que ce qui devrait, pourrait être une joie de penser comme conquête acquise et héritage de la civilisation est un fardeau, un lointain, une étoile inaccessible, un devoir plein d'obstacles et de pesanteurs. S'en réjouir est difficile et demande comme une décision personnelle à prendre clandestinement pour rallier un lointain passé jusqu'à un présent actif, une sorte d'élan caché auquel participent pourtant de nombreuses individualités éparpillées, disséminées, ayant chacune fait leur déclaration de guerre.
Évidemment, l'obstacle est double, voire triple, puisque le trésor, par toutes sortes de manœuvres, est tenu bien éloigné de nous. Qu'un découragement nous guette à vouloir s'en emparer, tant il est peu mis en valeur de manière directe. Ainsi, l'envahissement commercial, financier, la toute-puissante société du profit, vocifère en tout lieu, en tout sens, substituant au désir de penser celui de posséder, l'obligation de s'abrutir et de gagner péniblement sa croûte.
Alors qu'en nous-mêmes, la clarté et l'ordre sont délicats, et qu'aller les chercher est une aventure à part entière pour se reconstituer intensément un appareil digestif capable de concevoir, d'absorber et de recueillir tout le stimulant de la pensée. Le premier geste vers la joie, initié dans la Grèce antique, à compter de l'invention de la tragédie, rattaché aux premiers élans de la philosophie et de la démocratie consciente, est encore à parachever, à reprendre, à accomplir, par-delà toutes nos représentations, en un lieu à la fois proche et très éloigné de soi, un lieu intérieur où palpitent dans un grand silence les flammes mystérieuses du Dieu caché et insolite, aux yeux malicieux, Dieu cruel et amoureux, initiateur de la pensée secrète, celle qui au fond de nous a des ailes,
Dionysos. L'effort pour aller le retrouver en soi-même est à la fois solitaire et solidaire, comme le soulignait Camus. C'est en effet un effort désespéré au sens où il n'est plus recouvert d'aucun espoir secondaire. Il est l'ultime effort, celui dont on n'attend plus de halte reposante ni de protection temporaire. C'est un pari de toutes et de tous contre toutes et tous pour une alliance intérieure sans garantie de victoire.
Peut-être, comme le dit un chanteur contemporain, pour la seule beauté du geste. Il en ressort que désirer une société digne de la civilisation est peut-être tout à fait illusoire, qu'il faut admettre que la joie et la résistance se trouvent et s'effectuent toujours en bordure ou en minorité, que c'est aussi le destin tragique de la philosophie de n'obtenir d'elle que quelques instants de joie lumineuse, plutôt que de la réduire à l'action idéale et réalisée d'un prochain Reich de 1000 ans, et quelle que soit sa forme. Lui, en tout cas, ne sera jamais lassé de préférer pour chacun de nous un vociférant accomplissement propre à tuer simultanément, comme le suggère Camille, et le temps et les mots dans leur singularité.
Mais quel langage ! Qui pourrait encore passer outre à l'incongruité ou l'illusion de prendre la parole, alors même que celle-ci tend de plus en plus à devenir un bruit de fond comme un autre, alors même aussi qu'en attendre du sens passe pour une des pires vieilleries. J'ose à peine en donner pour preuve la prétendue poésie d'aujourd'hui, dont l'extrême licence formelle a fini par s'embourber dans les thèmes de l'exil et du manque, et dont le seul enseignement se réduit à entériner une rupture de plus en plus évidente entre les choses et les mots. Précise Annie Lebrun dans Qui vive, et elle continue ainsi.
Que pèse-t-elle réellement, la poésie, devant le désespoir ? Quand la marée montante du vide gagne les objets, les personnes, venant assiéger leurs contours, écumer dans le creux de leurs apparences jusqu'à les faire sombrer, corps et reflets, dans le remous qui m'emporte. Ces naufrages, je les connais trop pour ne pas savoir quelle part y a la poésie justement, nous empêchant à jamais d'être au monde, d'embarquer sur un navire dont on aurait même plaisir à dire la blancheur ensoleillée. C'est elle qui trop souvent me précipite vers ce qui, à peine visible, à fleur de la plus belle eau, fait écueil. Elle est ce courant que rien n'arrête, s'éprenant de ce que révèlent les formes pour se déprendre de ce qu'elles cachent. Et ce courant, bien sûr, on le perd, il nous perd. Qu'il disparaisse même obstinément et tout naturel. Ce qu'il indique parfois n'est jamais le beau fixe, mais seulement la possibilité, la déconcertante possibilité d'incartade sensible par laquelle l'être humain, déjouant ses propres prévisions, réussit certains jours à se défier lui-même.
Et plus loin, décrivant la manière dont la culture aujourd'hui s'empare des œuvres, elle écrit « Le fait est qu'à travers cette nouvelle prise en charge scientifique et culturelle du langage, il ne s'agit même plus, comme certains seraient encore tentés de le croire, de l'affrontement rituel dans la sensibilité occidentale du concept et de la présence, mais d'une épreuve de force autrement inquiétante dont les mots eux-mêmes sont devenus l'enjeu. Bastion combien plus subtilement équipé que les images pour préserver ce qui nous reste d'unique, les voilà soumis à la pression grandissante de l'histoire à faire plier le point de vue singulier devant celui du nombre. »
Bon, à mon avis, il faudra couper
dans tout ça dans, la, dans les
citations. J'ai vu, je ne les ai pas préparés, mais en lisant, je me rends compte qu'il y a des choses qui peuvent faire. La philo-lophie, un abécédaire en haute
et basse fidélité,
texte
et commentaire de texte,
Arnaud Gosselin.